Bonjour, c'est Lucie, c'est le début de l'émission d'information locale et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, c'est le centre de l'enfance à Rennes qui est en grève. Interview avec l'association Bretagne Sens qui fête ses 30 ans de combat pour le commerce équitable. Il y aura de la musique dont une nouveauté, un reportage sur la ligne B du métro rennais à la découverte des 7 œuvres d'art installées par la ville et Rennes Métropole. Et puis, recommandation, c'est de voter au budget participatif d'ici début juin. Bienvenue dans la Rennes.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la Rennes!
Vive la Rennes!
Allez, on commence avec l'info du jour retenue pour vous. Le centre de l'enfance à Rennes qui est en grève, soutenu par le syndicat Sud. Le centre de l'enfance, il est implanté dans le quartier Henri Fréville. C'est le principal centre d'accueil d'urgence pour la protection de l'enfance en Ille-et-Vilaine. Les équipes, elles, doivent assurer l'hébergement en urgence des enfants qui sont reconnus en danger et confiés par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Assurer aussi la permanence des services de l'ASE les nuits et les week-ends. Et c'est la première fois que la structure se met en grève. Désormais, depuis plusieurs semaines, puisque le mouvement a commencé le 23 avril. Motif de leur colère, la saturation du dispositif depuis plus d'un an. Chaque année, ce sont plus de 600 accueils qui sont réalisés, avec des enfants qui, pour certains, résident dans le centre d'accueil depuis plusieurs mois, voire années, dans l'attente d'une orientation vers un hébergement. Ils sont 63 à attendre en ce moment un lieu d'accueil. Je cite le communiqué, « Les urgences sont embolisées, ce système ne fonctionne plus. » La direction du CDE, centre de l'enfance, interpelle donc les responsables du département sur le manque de places d'hébergement et le manque aussi de solutions pérennes d'accompagnement pour les enfants et les familles dans le besoin. Avec plusieurs demandes du côté du CDE, notamment la baisse du taux d'occupation théorique à 80% pour pouvoir jouer son rôle d'accueil d'urgence. La saturation, elle a des conséquences sur le moral des troupes, puisque les différents professionnels ne sont plus en mesure d'assurer leur mission dans de bonnes conditions. Et les appels quotidiens pour de nouvelles admissions amène sans cesse les mêmes questions. Où accueillir ces enfants? Dans quelles conditions? Comment les accompagner sans le nombre de professionnels suffisant? Des renforts éducatifs immédiats sont donc sollicités pour les services du centre de l'enfance en sureffectif d'enfants. Allez, après l'info du jour, c'est l'heure d'une interview.
Marcel Launay et Théo Manini, bonjour à tous les deux.
Oui, bonjour.
Je vous présente Marcel. Alors, vous avez été président de Bretagne Sens, Sens pour commerce équitable Nord-Sud. Et Théo, vous y êtes étudiant en stage en ce moment. Ensemble, on va parler quinzaine du commerce équitable et puis temps fort pour cette association qui fête ses 30 ans cette année. Une association donc qui a priori a été lancée en 1993, si j'ai bien fait le calcul. C'était quoi le contexte de lancement à cette époque où vous étiez déjà militant, Marcel, sur la promotion du commerce équitable?
Oui, alors le commerce équitable existait déjà avec les boutiques magasins du monde, qui sont devenus artisans du monde par la suite, mais dans des boutiques spécialisées, avec une transparence depuis les groupements de producteurs ou d'artisans jusque dans les boutiques de vente. Et puis, à l'appel des producteurs du Sud, qui connaissaient une mévente sur leurs produits, par exemple à la CNUSED, l'organisme de développement des Nations Unies, les États ont demandé « trade not aid », du commerce, pas de l'aide. Parce que l'aide, c'est bien, ça nous aide un petit peu, mais ça ne résout pas notre problème. Donc, Frans van der Hoff, qui était un prêt ouvrier, qui travaillait avec une coopérative de producteurs de café au Mexique, qui était également économiste, donc à l'appel des producteurs de café, a lancé la démarche avec un concept différent, en se disant si on veut que les produits se développent pour bénéficier au maximum de producteurs, il faut que les produits soient partout, y compris dans la grande distribution. D'où la nécessité d'un label. Parce que pour que le consommateur ait quand même une garantie. Donc moi, je n'ai pas pu participer au tout départ parce que j'avais d'autres engagements, mais ça a fait tilt. Comme j'étais dans l'agriculture, conseiller agricole, pour développer, aider le développement de paysans du pays de Redon, d'une région très pauvre. Moi, ça a fait tilt, sortir de l'aide pour permettre aux gens de se développer par eux-mêmes, par leur travail. Bon, donc voilà, c'est dans ce contexte-là que ça a été lancé.
Vous avez été président de cette association, aujourd'hui vous en êtes membre. Vous avez quitté la présidence quand ?
Il y a 2 ou 3 ans, oui.
Ça, c'est récent.
Oui, 2 ou 3 ans. Je suis encore un peu dans la communication, mais je ne suis plus en première ligne, comme on dit.
On redit peut-être quand même les valeurs qui sont associées au commerce équitable sur un marché où se côtoient beaucoup de labels. Il y a évidemment le label bio, mais aussi des labels comme le label rouge ou encore le label haute valeur environnementale où on défend l'idée d'une agriculture raisonnée qui est remise en cause par certains. Le label commerce équitable, Il se matérialise comment ?
Oui, alors, au départ, il y a eu des pionniers, et je tire mon chapeau au tout premier, puisque j'y étais pas. Donc, ça a été, par exemple, Guy Durand, que c'était des militants associatifs, mais il était aussi professeur d'agronomie à l'ENSAR à l'époque. Et puis, un certain nombre de militants ont dit, mais il faut qu'on lance le commerce équitable en France. Il y a eu une journée annoncée dans Ouest France. Le lendemain, un torréfacteur, Lobodis, le directeur de Lobodis, des Côtes d'Armor à l'époque, a pris contact et il s'est lancé dans l'aventure un petit peu en partenariat avec le CAT à l'époque de Bain-de-Bretagne. Donc c'était prendre un risque. Donc ça a démarré petitement.
Et l'idée centrale qui est restée la même, c'est de rémunérer au prix juste le producteur.
Oui, alors, donc avec un label, en même temps il y a eu le label Max Savlard France. Donc il y a 3 critères essentiels. C'est le prix rémunérateur pour les producteurs. La prime collective de développement pour que ça ne soit pas ça reste pas une démarche individuelle. De toute façon, les petits producteurs ne peuvent rien faire seuls. Et dans les pays du Sud, ça fait c'est pour développer la production, améliorer, mais aussi pour les besoins sociaux et scolaires, par exemple, puisque là-bas tout est à faire. Alors. Pendant longtemps, il n'y a eu que ce label Max Savlard, qui a été fortement décrié, parce que la notion de label, on ne savait pas trop comment c'était contrôlé. Et puis, toujours à cause de cette présence dans la grande distribution, des produits dans la grande distribution.
Ce qui, depuis le début, est source de critiques et de suspicions de consommateurs.
Oui, alors, aujourd'hui, je pense que les gens ont un peu mieux compris, mais il en reste toujours une inquiétude, mais qui est légitime. Donc, dans la grande distribution, est-ce qu'on peut faire confiance ? Oui, nous disons, avec le label. Bon, dire qu'il n'y a jamais aucune faille, non, on ne peut pas dire ça. Mais c'est quand même très sérieux, c'est garanti par des organismes indépendants. Et alors aujourd'hui, il y a 8 labels, dont 5, je pense, qui sont pour les produits du Sud, le café, le thé, la banane, qu'on ne produit pas chez nous. Et puis il y en a 2 ou 3 qui sont made in France, donc local. Car depuis la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014, il y a eu intégration des produits français avec les mêmes normes, prix rémunérateur pour le producteur, prime collective de développement, mais qui est moins importante parce que les aspects sociaux chez nous sont résolus autrement, pas toujours bien, mais enfin donc c'est pas le rôle du commerce équitable. Et puis l'engagement dans la durée, le troisième critère.
Des sujets qui concernent le Nord comme le Sud.
Et il y a eu une loi de 2021, climat et résilience, qui a reprécisé les critères du commerce équitable avec 7 critères du développement durable. Donc aujourd'hui, il y a quand même des garanties sérieuses et c'est encadré par la loi. Celui qui affiche commerce équitable et qui parle commerce équitable doit respecter les critères.
Je reviens à l'association Bretagne Sens qui fête donc ses 30 ans cette année. Comment se porte l'association après une période de crise sanitaire qui a été difficile pour beaucoup d'associations, hein. Dans les équipes, on compte une vingtaine de membres, c'est toujours ça
Oui, on est toujours à une vingtaine. On a entre 20 et 25, 30. Mais nous sommes peu nombreux. Pour un chantier qui est immense, parce que notre objectif, c'est de travailler, de toucher toutes les catégories, c'est tout public, c'est les consommateurs de base, bien sûr, c'est les associations de solidarité qui, même si elles ne s'engagent pas au quotidien comme nous, lors de leur peau ou lors de festivals, donc peuvent utiliser les produits du commerce équitable et en parler, l'afficher. C'est les associations de consommateurs peu présentes dans le mouvement, et nous le regrettons parce que les associations de consommateurs ont souvent œuvré pour la santé et la sécurité des consommateurs, ce qui est normal, mais aujourd'hui on ne peut plus consommer sans être conscient des enjeux sociaux et environnementaux qui sont devant nous.
Donc l'appel est lancé aux associations de consommateurs, il y en a à Rennes.
Oui, voilà, exactement.
Votre travail de promotion du commerce équitable, puis, vous le menez tout au long de l'année.
Oui, et puis en direction des collectivités. Et là, nous avons le soutien de la région depuis le départ, et nous l'en remercions parce que c'est précieux, mais aussi du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, de Rennes Métropole, de Bruy, de Béton. Leur soutien donc est précieux financièrement, mais aussi par l'audience et le caution que ça apporte. Et il y a eu en Ille-et-Vilaine un conseil brétilien où toutes les collectivités, les associations, les entreprises, les écoles, tout le monde travaille ensemble, et par exemple pour bâtir la campagne la quinzaine du commerce équitable, c'est un travail commun. Donc pour nous c'est une nette avancée.
La quinzaine du commerce équitable, c'est le temps fort dans l'année où votre association peut mettre en lumière ces actions qu'elle mène pourtant tout au long de l'année. Cette année, la quinzaine du commerce équitable, c'est du 13 au 28 mai. Plusieurs animations sont menées auprès de tous ces publics là que vous avez évoqués, que ce soit en entreprise, auprès des étudiants, du grand public aussi. On peut juste revenir sur la journée d'hier, le dimanche 14 mai. Il y avait par exemple une journée du patrimoine agricole, bio et équitable. Ça se passait dans une ferme pas très loin d'ici, à Chavagnes.
Oui, à Chavagnes. Donc, c'était très intéressant. Alors, pour nous, à un double titre, parce que nous avons une image qui reste un peu pour les produits Nord-Sud. Or, depuis longtemps, dans l'idée, même s'il n'y avait pas de label pour le commerce équitable local, parce qu'il n'y en a pas besoin quand le consommateur et le producteur se connaissent, il n'y a pas besoin de label, parce que le consommateur sait comment le producteur travaille. Donc, lors des quinzaines, nous avons eu le témoignage de producteurs venant des pays du Sud, et nous avons toujours favorisé des rencontres entre producteurs locaux et des producteurs du Sud. Donc pour nous c'est une concrétisation. Alors pour revenir à la journée d'hier, donc l'autre satisfaction, c'est d'avoir enfin pu rencontrer des labels bio équitable France, par exemple Biolay. Donc on a pu se rencontrer et être présents tous ensemble, et il y avait beaucoup de monde, je ne sais pas, c'est plusieurs centaines, je n'étais pas aux statistiques, mais c'était doublement intéressant parce que les gens se rendent compte que la notion de commerce équitable, de juste rémunération pour les producteurs mais aussi pour les salariés, c'est universel.
La réflexion est élargie, puis le dialogue est installé entre le Nord et le Sud. Également à venir dans cette quinzaine du commerce équitable qui se poursuit et qui va même aller un peu au-delà du 28 mai, on peut dire que ce lundi il y a une animation organisée dans l'entreprise Olga, anciennement Tribala à Noyal-sur-Vilaine, des expos et des animations au lycée professionnel de Cesson-Sévigné du 22 au 26 mai. mai. Une animation le 31 mai à la médiathèque de Brühl, accessible donc à tout public.
Et autre événement qu'on annonce, une conférence mardi 16 mai. Ça se passe sur le campus Carlan à Brühl à partir de 18h. Il y sera question de commerce équitable, évidemment, avec un témoignage de producteurs. Et c'est un événement en partenariat avec l'association Humanitem.
Ce qui nous fait énormément plaisir, nous, c'est que des jeunes s'engagent, et de plus en plus, en lien avec notre mouvement national Fait un monde équitable, et puis avec le programme Génération équitable. Et c'est les jeunes qui s'informent sur le commerce équitable, qui ont déjà ça parfois dans leur formation, dans des actions plus commerce, et qui s'approprient la réalité du commerce équitable, qui font de la formation interne, des animations, ou qui vont quelquefois intervenir dans d'autres écoles. Donc, et en plus, ça démultiplie les moyens, parce que nous, une vingtaine pour la Bretagne, on n'est pas grand-chose.
Donc vous avez besoin de relais.
L'engagement des jeunes est pour nous est une satisfaction, d'autant plus que c'est eux qui supporteront les conséquences des règlements climatiques. Donc il faut peut-être s'en occuper sérieusement.
C'est là que je pose la question à Théo Manini. Vous êtes étudiant en stage dans l'association Bretagne Sens pour commerce équitable Nord-Sud. Vous le découvrez là, le commerce équitable en stage, ou c'était déjà un label que vous connaissiez, peut-être dont on parle dans vos études ?
Alors, je connaissais le terme commerce équitable, mais je ne connaissais pas bien tous les labels auxquels il faisait lien. Et surtout, ce que je trouve intéressant pour revenir à Marcel, c'est que nous, on voyait clairement pas ça il y a quelques années dans nos études. Et là, en fait, je trouve ça vraiment intéressant que justement, de plus en plus, en fait, on voit ça dans les études, sachant que du coup, moi, j'ai déjà pu, durant ce stage, aller voir deux lycées pour les sensibiliser justement au commerce équitable. Donc, par exemple, le lycée de Cesson, on leur fait une sensibilisation et du coup, ils vont faire des événements dessus pendant la quinzaine. Et c'est vrai que c'est quelque chose, en fait, qui n'est pas du tout médiatisé, quoi. C'est-à-dire qu'on en parle très peu. Et c'est pour ça on connaît toujours le mot, on connaît toujours le terme, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est, quoi.
Ce qui se cache derrière. On arrive au temps fort alors, qui se déroule durant la quinzaine du commerce équitable, les 30 ans de l'association Bretagne Sens. Ça se passe aux archives départementales. On est dans le quartier Beauregard à Rennes et ça se déroule mercredi 24 mai, toute la journée dès 9h. Une journée qui est pensée pour le grand public. On le dit tout de suite, l'idéal c'est de s'inscrire à cette journée, il reste des places.
Oui. Il est préférable de s'inscrire surtout pour le repas. On peut s'inscrire
par email.
Envoyer un mail à bretagne.sens, mais C-E-N-S, @gmail.com, ou consulter, aller voir sur notre site commerce-équitable-bretagne.org.
Pour retrouver tout le programme, ça commencera dès le matin avec d'abord, comme traditionnellement, un temps d'accueil avec un mot du président du conseil départemental et de votre association, évidemment. Et puis de 10h à midi, un temps de témoignage où on retrouvera Guy Durand, que vous avez cité plus tôt, un des pionniers du commerce équitable. Donc témoignage et table ronde où on va parler du passé et puis de l'avenir du commerce équitable.
Oui, après avoir retracé le passé, qui était vraiment une utopie, le consommateur ne veut qu'une chose, payer le moins cher possible, point. Donc on va retracer un peu toutes les discussions qu'il y a eu sur le fameux label, les actions qui ont été menées, et on arrive à 11h avec le directeur de Max Havelaar France qui nous parlera aussi du commerce équitable Nord-Sud, mais aussi de la labellisation de produits français maintenant. Et le président de Commerce Équitable France qui regroupe national, donc qui regroupe tous les acteurs du commerce équitable, et Estelle Dubreuil de Faire un monde équitable, qui est le mouvement auquel on adhère et qui impulse toutes les animations en direction des jeunes. Et l'après-midi, il y aura le témoignage de producteurs du Sud, entre autres avec la présence physique de Fortin Blay, un producteur de cacao de Côte d'Ivoire, qui est représentant pour les producteurs d'Afrique, qui nous parlera en particulier du cacao, où c'est une catastrophe au niveau du commerce international actuellement. Et puis, on aura les entreprises locales, Biolay, Bretagne Viande Bovin, ou l'inverse, je ne sais plus.
Et puis des collectivités locales, des entreprises et producteurs.
Oui, l'objectif, c'est de réfléchir tous ensemble, déjà de mieux se connaître et de réfléchir tous ensemble sur comment on peut poursuivre, développer l'action aujourd'hui, mais en cohérence et en partenariat la plupart du temps, parce que si on reste seul dans son coin avec sa vision,
on n'avancera pas.
Non.
On ne l'a pas dit, mais sur le midi, il y aura un temps de déjeuner pour lequel il est conseillé de s'inscrire. La journée, elle se terminera avec un temps de synthèse, de bilan, et puis en musique avec la présence du groupe Opacuna pour de la musique des Andes à partir de 16h30. Alors, en 40 ans de développement du commerce équitable, ce label, c'est la bonne nouvelle, il s'est fait connaître par 98% des Français. Il reste à passer le pas qui peut être difficile, surtout dans la période d'inflation qu'on connaît, puisqu'on parle de produits qui rémunèrent mieux les producteurs et qui coûtent donc un peu plus cher. Ma dernière question, c'était de vous demander, est-ce que défendre le commerce équitable, c'est peut-être aussi une forme, j'emploie le terme, d'éducation pour faire de la place dans son budget à ces produits-là, à une alimentation qui est plus durable?
Oui, ça veut dire qu'il faut réfléchir à son alimentation. Et alors, il y a effectivement des gens qui, des étudiants... Qui n'ont pas les moyens. Le commerce équitable ne résout pas tout. Il y a le problème des injustices, etc. Mais l'alimentation ne représente que 12 à 13 % du budget. Peut-être plus pour les classes pauvres.
Et c'est un chiffre qui a diminué en fait.
Oui. Donc on consacre beaucoup d'argent pour des choses quelquefois, je dirais...
Secondaires,
voire futiles. mais on ne réfléchit pas sur son alimentation et qui est vitale, encore une fois. Il faut avoir conscience que consommer bio ou naturel et équitable, c'est une garantie pour les producteurs, parce que et si on sauvegarde l'environnement mais qu'il n'y a plus de producteurs, on n'est pas plus avancé. Et puis, on n'a sans doute pas assez communiqué là-dessus, mais dès le départ, il y avait des critères environnementaux et 85% des produits équitables sont certifiés également bio. Donc, il faut être conscient, encore une fois, que notre type d'alimentation a une incidence sérieuse à la fois pour les producteurs, mais pour la santé du consommateur aussi, et puis pour l'environnement.
Le sujet est vaste, il sera possible d'en discuter plus lors de la journée anniversaire de l'association Bretagne Sens, 4 lettres pour commerce équitable Nord-Sud, dont vous étiez le président Marcel Launay, vous en êtes toujours membre actif, accompagné en studio de Théo Manini, étudiant en stage dans cette association qui fête donc ses 30 ans. On le redit, ça se passe mercredi 24 mai, toute la journée dès 9h aux archives départementales dans le quartier Borgard à Rennes. Il est conseillé de réserver sa place si vous souhaitez participer à cette journée par email à l'adresse bretagne.sens@gmail.com et puis il y a le site internet commerce-équitable-bretagne.org. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Je peux voir ta peine, même si ton cœur a durci, car bat toujours au fond de toi une rancœur sans foi ni loi. J'ai pu voir ta peine quand tu chantais, quand tu riais, et que tout le monde autour de toi était comme au chevet d'un.
Rouge-gorge, je peux voir ta peine, une nouveauté musicale repérée par Yann, notre programmateur ici à Canal B. Derrière Rouge-gorge, on retrouve le rennais Robin Polinier. Et ce morceau, il est à retrouver sur la bande originale du film Arvor de 2 à 5, sorti sur le label 3615 Records. C'est un documentaire réalisé par deux Corentins, Corentin Doucet et Corentin Massiot, et qui raconte le déménagement de notre beau cinéma associatif rennais. C'est sorti en 2022. Vous écoutez Canal B sur le 94.0, peut-être en ligne sur notre site canalb.fr. On passe au reportage du jour. Rappelez-vous, la ligne B du métro rennais, elle a été inaugurée en grande pompe le 20 septembre 2022. Mais dès 2021, des œuvres d'art ont commencé à s'installer sur son itinéraire. Aujourd'hui, elles sont au nombre de 7. Une commande d'art public de la ville de Rennes et de Rennes Métropole, auprès d'artistes mondialement connus et en lien étroit avec des artisans du territoire. Visite menée par Claire Lignereux, responsable des collections art contemporain au Musée des Beaux-Arts de Rennes, et puis par Antoine Chaudet, chargé de mission art visuel au sein de la direction de la culture de la ville et de Rennes Métropole.
On est à la gare, au pied de la statue de Jean-Marie Apriou, qui est la première statue qui a été posée dans le cadre de la commande d'œuvres de la ligne B du métro. Antoine Chaudet, chargé de mission art visuel pour la direction de la culture, ville de Rennes et Rennes Métropole. Atterrit en juin 2021, avant l'ouverture même de la ligne B du métro. Et c'est une sculpture qui est intéressante parce qu'elle reprend une tradition de la sculpture équestre et elle nous parle au travers du cheval aussi du déplacement à un endroit où on est à la connexion de plusieurs moyens de déplacement, le train, le métro, les lignes de bus, une station de taxi et puis tous les autres moyens de transport qu'on connaît à Rennes.
Le cheval de la gare, il s'appelle Morvarche, du nom de la monture du roi de Bretagne, Gradelon, qui avait le don de marcher sur l'eau. Et ses longues jambes ondulantes représentent en fait le reflet du cheval dans l'eau.
On trouve 7 œuvres d'art. Il y en a 2 à chacune des extrémités, à Saint-Jacques et à Cesson. On a donc une œuvre à la gare ici. On a une œuvre qui est cachée dans le tunnel du métro. Ça, c'est assez exceptionnel, mais il faut être à l'intérieur de la rame en mouvement pour pouvoir l'apercevoir. Une œuvre à la station Sainte-Anne, une œuvre à la station Gros-Chêne, une œuvre à la station Joliot-Curie.
Ce qui a motivé, on va dire, ce projet d'offrir des œuvres d'art à la vue du public, des habitants, c'est qu'il y a déjà une tradition qui est installée d'art public dans la ville de Rennes.
C'est vrai que cette commande, elle a un caractère exceptionnel de par son ampleur. Elle a atterri parce qu'effectivement, il y a une histoire de la commande d'art public à Rennes et aujourd'hui à Rennes Métropole. Il se trouve qu'il y a le 1% artistique, qui est un dispositif connu quand on construit un bâtiment public. Il y a cette obligation de dédier 1% du budget à la commande d'une œuvre d'art. C'est une manière de soutenir la création contemporaine en France. Et certaines villes, comme Rennes, sont proactives. C'est-à-dire qu'au-delà de l'obligation, vont sur certaines opérations d'aménagement urbain ou de construction d'une ligne de métro, par exemple, faire une commande d'œuvre d'art, même si ce n'est pas une disposition légale et obligatoire. Donc là, on est dans ce cadre-là, c'est-à-dire que c'est vraiment une commande volontariste. On a fait de l'arrivée de cette ligne de métro une opportunité pour faire une commande d'ampleur.
C'est quoi le rôle du Musée des Beaux-Arts là-dedans? C'est le moment où on explique qu'il y a eu un comité, c'est ça, pour sélectionner les œuvres d'art?
Oui, l'ancienne directrice et l'actuel directeur du Musée des Beaux-Arts ont fait partie du jury qui a été mis en place pour sélectionner les artistes à qui on allait passer commande. Claire Lignereux, responsable art moderne et contemporain au Musée des Beaux-Arts de Rennes.
Avec qui d'autre dans ce comité? Combien de personnes?
Sophie Kaplan, directrice de la Criée. Odile Leborgne, qui est directrice de l'ESAB, site de Rennes. Olivier Lerche, qui est conseiller aux arts plastiques à la DRAC Bretagne. Et puis ce comité, il avait une direction. Ça, c'est aussi assez particulier. Mais compte tenu de l'ampleur de cette commande, il a été fait le choix de déléguer cette direction artistique à Xavier Dourou, puis Franck Gautreau, qui sont les co-directeurs du consortium à Dijon, qui sont des personnes qui ont une grande expertise, une bonne connaissance de la création contemporaine, un réseau qui leur a permis de faire des propositions au comité artistique. Et ensuite, l'ensemble des personnes qui constituaient ce comité a émis un avis sur les propositions qui étaient faites pour trouver l'œuvre qui allait se relier au contexte d'implantation de l'œuvre. Ça, c'est quelque chose d'important et qu'on va retrouver comme un filigrane, mais il y a eu un travail vraiment très fort de fait pour que ces œuvres, elles dialoguent avec leur contexte d'implantation.
On peut donner un exemple de la façon dont ça dialogue?
L'œuvre de Philippe King, par exemple, à Saint-Jacques-Guetté, là, va entretenir un rapport formel avec son contexte. C'est-à-dire que, par le choix des couleurs, des formes, l'artiste a créé un contraste très fort avec une architecture extrêmement contemporaine, très, très minimale, presque froide dans les couleurs qui ont été choisies et les matières. Et puis, un environnement qui est resté aussi très naturel à la Courrouze. Donc, on a 3 éléments qui, d'un point de vue formel, dialoguent de par leur contraste.
Je donne peut-être le budget, plus de 2 millions d'euros consacrés donc à l'investissement dans ces 7 œuvres d'art sur la ligne B du métro ici à Rennes. Sur le choix des artistes nationaux, internationaux, il y a peut-être des locaux?
C'est très varié. Ici, avec Jean-Marie Apriou, on a un artiste natif de Bretagne qui s'est formé à l'École des Beaux-Arts de Rennes et qui vit et travaille aujourd'hui à Paris. Mais par ailleurs, on a aussi des artistes français et internationaux. Je pense à des Suisses comme Hugo Rondinone ou Valentin Caron. Je pense aussi à Camila Oliveira Ferclou, qui est native du Brésil, à Philippe King, qui est britannique et qui est décédé en 2021, qui est aussi un artiste d'envergure mondiale. On se trouve maintenant dans la station Saint-Germain et on va aller voir une œuvre qui n'est visible que depuis le métro en mouvement puisqu'elle se situe dans le tunnel entre la station Saint-Germain et la station Sainte-Anne. C'est une installation vidéo de Charles Demeaux qui s'intitule Bestiaire. Elle est très fugace, donc il faut vraiment la guetter à chaque fois et elle est nouvelle à chaque fois puisqu'en fait il a enregistré une centaine d'images d'animaux en mouvement qui vont être projetées de manière aléatoire sur plusieurs écrans qui se trouvent sur les 2 parois du tunnel. En fait, c'est très paradoxal ce qu'a voulu faire Charles Demeaux, parce qu'on est dans un côté hyper technologique, à la fois avec ce métro automatisé et ses installations vidéo, mais en même temps, il revient à quelque chose de très ancestral, puisque son inspiration, c'était les peintures pariétales préhistoriques dans les grottes, avec des peintures d'animaux, justement, qui fascinaient les humains. Et donc, il a joué complètement dans ce côté tellurique, on est dans des cavités au centre de la Terre, pour revenir à cette inspiration-là. Ce qui nous force finalement, en tant que voyageurs dans le métro, à se mettre nous-mêmes dans une position de guetter ces animaux.
On peut se mettre tout devant. Ouais.
Et les écrans vont se situer alternativement. Alors là, on vient de la station Saint-Germain, on va vers Sainte-Anne, à droite, puis à gauche, puis de nouveau à droite.
Ces œuvres d'art, elles peuvent aussi, alors faut que ça s'installe, mais servir de repère aux habitants dans la ville. Mais encore faut-il qu'elles soient identifiées. Est-ce que les habitants ont peut-être tendance à passer devant sans s'arrêter, sans peut-être avoir aussi l'information sur ce qu'ils voient? Est-ce qu'il y a un travail qui est pensé pour faire la médiation culturelle auprès des habitants?
Oui, il y a tout un travail de médiation qui est mis en place, à commencer par des cartels qui sont posés à proximité des œuvres, à des endroits visibles. Ce sont des cartels qui sont au format A3, donc on est sur des dimensions qui permettent d'être bien identifiés dans un espace urbain où il y a aussi un ensemble d'autres signes visibles et qui peuvent attirer l'attention des personnes qui fréquentent cet espace. Il y a des visites qui sont organisées par notre service médiation, par Destination Rennes aussi. Et puis sur cette question de l'appropriation, évidemment, tout est très différent en fonction de chacune des œuvres. L'œuvre de Jean-Marie Apriou, elle a mis un petit peu de temps à atterrir. Elle a été l'objet de beaucoup de critiques la première semaine où elle a atterri sur site. Elle a même été dégradée avec un graffiti qui explicitement disait que voilà, elle était moche. Et puis, au fur et à mesure, les personnes qui fréquentent ce lieu, alors qui sont des Rennaises, des Rennais, mais aussi des personnes qui arrivent à Rennes par le train, par la gare, se l'approprient. C'est devenu un endroit où il y a beaucoup de selfies qui sont réalisées et elle est accessible. C'est-à-dire qu'on peut aller au pied de la sculpture, la toucher. C'était aussi un des objectifs de l'artiste. On peut la toucher. Elle est dans une matière assez particulière. C'est de la fonte d'aluminium. C'est un métal qui est assez froid, qui normalement est très lisse. Et là, il était traité de manière très rugueuse. C'est-à-dire qu'on sent l'approche tactile, manuelle de l'artiste. On sent son geste et donc on peut par là toucher aussi la matière et presque le geste artistique, et il y a quelque chose de très sensoriel autour de cette œuvre.
L'objectif de la commande publique, c'est évidemment de créer des repères dans l'espace urbain, de jalonner un parcours, de marquer visuellement une place. Ici, par exemple, à la sculpture de Jean-Marie Apriou, on a également les deux terminus des métros, pour lesquels il y a eu aussi là des installations résolument sculpturales et très visibles, pour bien identifier ces nouveaux points forts. Mais par ailleurs, il y a aussi des œuvres qui sont beaucoup plus discrètes, qui sont quasiment camouflées dans le paysage urbain. Je pense aux grilles de Valentin Caron, aux abords du lycée Chateaubriand, ou encore à l'œuvre de Charles de Maux dans le tunnel du métro, qui peut complètement passer inaperçu. Et c'était aussi le but des artistes. On n'est pas forcément dans quelque chose de monumental et de démonstratif. Finalement, au-delà de créer des repères visuels, il s'agit aussi de transformer un peu subrepticement l'expérience quotidienne du déplacement en ville, venir mettre un petit grain de fantaisie et de créativité qui pourra passer aperçu ou pas, mais qui joue comme ça tout en douceur dans notre expérience de la ville.
Donc là, on est dans la station Sainte-Anne, au niveau des quais.
Oui, la jonction entre la ligne A et la ligne B. En fait, la place Sainte-Anne a été évidemment entièrement réaménagée à l'occasion notamment de l'arrivée du métro. Et dans les parages aux alentours, à l'extérieur, il y avait anciennement une grande peinture murale d'une publicité du bon du bonnet. Et Camilla Ferclou, c'est une artiste qui s'intéresse énormément à la réappropriation des images et à la présence des images dans notre quotidien. Pas seulement des tableaux, mais aussi des pubs, des logos, voilà, de tout ce qui vient peupler notre univers visuel. Et donc elle a eu envie de faire un hommage à cette pub dont elle savait qu'elle allait disparaître, en reprenant le chat qu'on trouve sur plusieurs affiches et logos de Dubonnet, qu'elle a réinterprété en gardant cette même esthétique avec des couleurs très vives, des aplats francs, uniformes, avec des contours nets. Et donc ce chat maintenant vient nous faire un petit clin d'œil amical quand on circule entre les lignes A et B.
Effectivement, cette œuvre, elle arrive dans un contexte d'aménagement urbain, puisque la place Sainte-Anne a été revue, un bâtiment a été détruit, bâtiment sur lequel il y avait une fresque, les Rennaises, les Rennais, particulièrement les étudiants, je pense, faisaient référence pour se donner rendez-vous. C'était assez simple, rendez-vous place Sainte-Anne, au pied de la fresque du Beau du Bon du Bonnet. Et l'artiste a choisi d'intituler son œuvre « Rendez-vous », avec la volonté de faire de cette nouvelle œuvre un point de rendez-vous. Il faut savoir que l'œuvre est en deux parties. On a donc cette fresque qui fait plusieurs dizaines de mètres carrés, qui est à la jonction des deux lignes de métro, qui est bien repérée des usagers. Et puis on va monter à l'étage voir un pilier, qui est un pilier structurel de la station de métro, mais qui a été entièrement transformé en cœur. Donc ce pilier est en forme de cœur, un cœur bicéphale avec deux couleurs, le rouge et le bleu, qui sont les couleurs historiques du beau, du blond, du bonnet. Et l'idée, c'est aussi d'être dans un symbole, c'est-à-dire que le cœur, c'est le point de jonction, le point de rassemblement, le cœur de ville aussi. Donc on est dans une approche symbolique qui nous parle du contexte dans lequel on évolue. Alors effectivement, sur les 7 œuvres, il y a une œuvre qui n'est pas encore installée, elle le sera mi-juillet. C'est l'œuvre d'Isabelle Cornaro, qui est une œuvre assez conséquente puisqu'il s'agit de 5 monolithes en béton qui pèsent chacun plus de 3 tonnes et des monolithes sur lesquels on a des surfaces d'affichage qui vont permettre à l'intérieur une programmation en lien avec le musée des Beaux-Arts puisque cette œuvre elle va atterrir à Morpa à côté de la station Groschen et il se trouve que le musée va ouvrir aussi un espace dédié à des expositions et à des projets à Morpa et donc il y a comme ça un dialogue entre l'espace du musée, l'espace extérieur et l'œuvre d'Isabelle Cornaro.
L'installation de cette œuvre à l'été, ça nous permet de dire qu'il y a un festival qui va bientôt débuter à Rennes, Exporama. Je pense qu'il faut expliquer en quoi ça consiste, Exporama.
Oui, cette tradition de commande publique à Rennes qui dure depuis des décennies, elle n'est pas seule dans le paysage culturel local. On a aussi la chance à Rennes d'avoir un tissu très dense d'acteurs avec le FRAC Bretagne qui est un des plus grands FRAC de France, avec un musée des Beaux-Arts très actif dans le domaine de l'art contemporain, deux centres d'art labellisés, La Criée et 40 mètres cubes, avec un nombre d'associations aussi très investies, parfois dans des domaines très pointus aussi, des arts visuels, du graphisme, de la micro-édition, du court-métrage, etc. Et donc, depuis 2021, a été créé un temps fort estival qui s'appelle Exporama, qui a l'ambition de devenir un véritable festival d'art contemporain qui rassemble justement tous ces acteurs, toute cette constellation et qui rend mieux visible au public, local comme touristique, cette dynamique qu'il y a autour de l'art contemporain à Rennes.
Il y a deux expositions phares que le public va pouvoir découvrir.
Il y a deux expositions phares qui s'articulent. Nous avons au couvent des Jacobins Forever 60s, l'esprit des années 60 dans la collection Pinault, avec donc le retour pour la troisième fois de la collection Pinault sous forme d'exposition à Rennes. Et par ailleurs, une rétrospective consacrée à un artiste britannique mondialement connu dans le monde de l'art contemporain, Jérémy Deller, une rétrospective qui s'appelle Art is Magic et qui sera visible au Musée des Beaux-Arts, à La Criée et au FRAC Bretagne. Les deux expos phares, elles ouvrent donc le 10 juin. Ces deux expos phares, elles seront visitables avec un billet couplé. Le plein tarif est de 12 euros. Je précise aussi que la gratuité est accordée aux moins de 26 ans, aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires du RSA, aux titulaires du dispositif Sortir, aux personnes handicapées et aux groupes scolaires et extrascolaires.
Et on termine avec un arrêt à la station Via Silva.
Et puis là, l'œuvre qui est face à nous, d'Hugo Rondinone, qui est sur une approche beaucoup, beaucoup plus brute, c'est-à-dire qu'on a affaire à des blocs qui n'ont pas été dégrossis, qui sont extraits de la carrière, et qui sont simplement empilés les uns sur les autres dans un geste d'une extrême simplicité, et qui viennent comme ça composer par l'empilement une figure humaine, mais dans une représentation qui est presque une représentation qu'on aurait pu voir émerger à l'origine de l'art tel qu'il a pu se déployer dans les premières époques, si on ne tenait pas compte de la dimension de l'œuvre, puisque c'est une œuvre qui fait 6 mètres de haut, qui pèse 13 tonnes. C'est un défi technique de pouvoir ériger une sculpture comme celle-ci dans un espace qui est fréquenté par le public, à un endroit où elle est totalement accessible.
Alors cette œuvre, elle s'intitule The Sincere, et ici, cette particularité d'empiler des blocs de pierre pour créer une sculpture, c'est quelque chose qu'il a fait à plusieurs reprises au long de sa carrière. Par exemple, il a empilé des blocs de rochers comme ça, dans le désert du Nevada, et donc on était à la limite avec le Land Art. Et ce qui est amusant à observer aussi, c'est que finalement, toutes ces œuvres qui créent un parcours le long de la ligne B du métro, elles créent aussi des échos et des résonances entre elles. Ici, cette statue très frustre, faite juste de quelques blocs qui suggèrent une tête, un buste et deux jambes, ça me fait écho aussi à ce qu'on a vu sur le parvis de la gare, avec ce cheval très fragile, un peu chancelant, où on avait donc d'un côté le détournement de la statue équestre, et ici le détournement de la statue tout court, donc un peu des grands classiques de la statuaire publique qui sont revisités. Et puis ce côté ancestral de la statue faite à partir de blocs de pierre, ça me fait aussi penser à l'installation cette fois-ci très technologique de Charles de Meaux, qui faisait référence à la peinture pariétale et qui nous faisait revenir un peu aux origines de l'art. Donc voilà, c'est aussi un voyage qui va permettre de construire comme ça des petits échos de rêverie en rêverie tout en transformant le paysage urbain.
Se ti incontro un giorno che non piove, io ti sposo. E non dire no, che son tre vite che non riposo. Ma piove laggiù, sopra i campi, sopra il mare blu. Il vento è poesia, la notte madida di nostalgia. Ti ricorderò per la dolcezza che mi hai donato. Non mi illuderò di avere indietro quel mio passato. Ma vorrei laggiù, su quei campi, su quel mare blu, un po' di poesia, la notte magica e sei tutta mia. Splendida, bella come un tempo, da far morire la realtà. Sembrerà un inganno, con l'anima vedrai un mare in luce e ti accorgerai che quel mare in luce non finisce mai. Se saprai ridere del tempo in questa vita, se vorrai, quando c'è buon vento potrai incontrarmi là nel mare in luce.
Un mar in luce par Raphaël Gualazzi, un morceau à retrouver sur l'album Happy Mistake, qui est sorti en 2013. C'est le troisième et dernier disque à ce jour du chanteur et pianiste italien qui avait participé en 2011 au concours de l'Eurovision. Comme quoi, parfois, on peut trouver de jolies choses dans ce concours. Vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. On poursuit et termine avec la recommandation du jour. « Et le conseil du jour, bien, c'est de voter pour votre projet favori du budget participatif de la ville de Rennes, 6e édition. Depuis le samedi 13 mai jusqu'au dimanche 4 juin, une centaine de projets sont soumis au vote des Rennaises et des Rennais. Une enveloppe de 3,5 millions d'euros sera consacrée au dispositif. Et cette année, 210 projets ont été déposés par des habitants, un nombre inférieur aux éditions précédentes, en lien avec un temps de rapprochement de certains projets. Parmi ces plus de 200 projets, 108 ont été retenus par le comité de suivi sur des thématiques très variées. Ça va de l'aménagement à la nature en ville, en passant par la mobilité ou encore la jeunesse. Pas de condition d'âge ni de nationalité pour participer. Chaque habitant peut voter une fois pour 3 projets minimum et 10 maximum. Ça se passe en ligne sur le site fabriquecitoyenne.fr ou bien sur papier à l'ancienne. Des urnes sont en effet installées dans une dizaine de lieux et équipements de la ville, des directions de quartier, des bibliothèques ou encore dans les centres sociaux. Temps fort à venir pour ce budget participatif de la ville de Rennes. Une agora sera installée sur la place de la mairie du samedi 20 mai au dimanche 4 juin. L'occasion de découvrir l'ensemble des projets et puis de voter dans la foulée. Début juin, les projets qui auront obtenu le plus de voix seront désignés lauréats, c'est le jeu, avec une enveloppe qui sera consacrée à des grands projets pour la ville. Une enveloppe de 300 000 euros. Une autre enveloppe, là, de 220 000 euros sera dédiée aux 5 quartiers prioritaires de la ville et puis les 9 autres quartiers se partageront tout de même une enveloppe de 200 000 euros. La Reine, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.